RMC.
After Lyon.
Le podcast
Gilbert Bribois.
Chers supporters de Franck Durix et d'Albert Raymond, bienvenue dans le podcast After Lyon. 15 minutes de débat consacré à l'actualité de l'OL avec aujourd'hui Emmanuel Petit. Manu, bonjour.
Bonjour Gilbert, bonjour à tous.
Et avec Edouard G qui est à Lyon bien sûr. Salut Edouard.
Salut Gilbert, salut Manu. Bonsoir à tous.
Salut Edouard.
Au programme, salut, le salut. Point sur la préparation lyonnaise. On parlera de Grégory Coupé qui allume l'OL. Et on parlera également d'OL Valais. Et oui, le complexe lyonnais et son avenir en question. Edouard a plein d'infos à nous donner. C'est tout de suite dans le podcast After Lyon. L'OL a été le premier à reprendre, sérieusement, avec des vrais entraînements, matchs de préparation et tout. Et pour l'instant, Edouard, tout se passe bien à tel point que Lyon n'encaisse pas de but. Faisons un petit point d'étape, là, après ces premières semaines.
Alors, 3 semaines à Lyon, 1 semaine de stage à Évian. Actuellement, les Lyonnais, jusqu'à la semaine prochaine, sont en vacances. Après, donc, notamment du côté du bord du lac Léman, 1 semaine très très intense, beaucoup de physique, des séances doublées, même avant le match face à Nice de samedi. Le matin, ils ont fait entraînement, 2 matchs amicaux, un peu symbolique face à une équipe suisse de Port-Valais 12-0, et puis peut-être un petit peu plus remarqué, celui face à Nice 1-0, le but d'Aouar, même s'il y avait beaucoup dans les jambes déjà la semaine, plus l'entraînement du matin, avec deux équipes presque type, une 90 minutes face aux amateurs suisses le mercredi et presque une autre presque 90 minutes. Il y a eu un petit peu plus de changements samedi au groupe Amas Stadium. Voilà, quelques enseignements. Les Lyonnais n'ont pas pris de but. Ça commence un petit peu à prendre forme. Mais voilà, la vraie grosse préparation pour la grosse échéance le 31 juillet, la finale de la Coupe de la Ligue, ça sera à partir du 13 juillet pour la 3 grosses semaines de travail.
Donc là, on aura eu 1 mois et demi de préparation complète.
2 semaines au total, ouais.
Bon,
on
est dans les clous. Mal, ouais. D'ailleurs, vous avez remarqué, Manu, tu as remarqué tous ceux qui prédisaient les avalanches de blessures avec les reprises rapides de championnat. Ça n'a pas été le cas au final. Hein.
Tu parles des championnats qui ont repris malgré la pandémie. Quoi. Ouais. Il y en a eu, certains championnats au début, mais par la suite.
Comme il y aurait des blessures normales tout le temps, en fait. Enfin, tu vois.
Exactement. Maintenant, attends, c'est pas terminé. Hein. Donc, avec l'accumulation de matchs tous les 3 jours, au bout d'un moment, ça risque de tirer sur les organismes.
1 mois et demi de préparation, là, comme le disait Edouard, Manu, pour toi, c'est bon. Lyon arrivera au top fin juillet.
Je pense. Après, en fonction des oppositions qu'ils vont avoir, donc c'est la deuxième et c'est un peu light. Donc, je crois savoir qu'ils ont encore 3 matchs. Ils ont 3 matchs encore amicaux avant les matchs officiels. 4, c'est ça, d'accord. Alors, ils vont monter en puissance. Ce qui est intéressant, c'est qu'en dehors du temps qu'ils ont pu avoir pour avoir une préparation adéquate, ils sont montés en puissance, en régime, c'est qu'ils n'ont pas de blessés à déplorer, quoi. C'est surtout ça, quoi.
Et qui récupèrent même les blessés de longue date, Edouard.
Ouais, Memphis et puis Jeffrey Nadelaide, notamment Memphis avec le brassard de capitaine que l'on a vu très à son aise. On a vu aussi qu'il y en a un qui n'a absolument pas perdu de tout ce que l'on avait vu de sublime dans ses premiers pas, c'est Bruno Guimaraes. Et je vous conseille un petit best-of de ses actions. Ouais, mais alors là, je suis encore plus amoureux sur le coup parce que c'est vraiment c'est calme, c'est précis, il y a de l'impact, il y a du leadership au milieu.
Ça joue devant.
C'est un vrai régal. Ouais, ça joue devant. Franchement, Guimaraes, on va encore le voir, ça va être formidable. On a vu aussi un Melvin Barr qui a fait 45 minutes assez intéressantes. Alors, bien évidemment, la twittosphère des jeunes Lyonnais a tout de suite dit qu'il fallait le garder plutôt que Koné. Rudy Garcia en a dit du bien après le match, même s'il y a des rumeurs éventuellement de départ. Mais voilà un petit jeune qui a peut-être saisi sa chance dans ces 4 semaines de préparation. Et pour la suite des matchs, donc le 16 et le 18, il y a un tournoi au Groupama Stadium, les Lyonnais joueront contre le Celtic Glasgow, puis les Rangers. Ensuite, il y aura un match face à la Gantoise et un potentiel autre match face à une autre équipe belge juste avant la finale de la Coupe de la Ligue. Donc encore 4 matchs amicaux avant le Lyon-PSG du 31 juillet.
Enchaînons avec le cas Grégory Coupé. Pourquoi ? Parce que Greg Coupé, donc joueur historique de l'OL, bien sûr, qui a signé à Dijon pour s'occuper des gardiens, a donné une conférence de presse, c'était sa présentation hein, en quelque sorte, il y a quelques jours à Dijon, et il a donné sa version de ce qui s'est passé à l'OL. Il n'a pas été tendre avec Juninho, avec le club. Il en a remis une petite louche ensuite, dès qu'on l'a interrogé et tout. Essayons de tirer le vrai du faux. Édouard, donne-nous les infos que tu as et ensuite Malou donnera son avis sur la gestion du cas Coupé, parce que c'est vrai que bon, on pouvait se dire ce mec-là, voilà, c'est un Lyonnais historique, même si rappelons quand même qu'il venait de Saint-Étienne à l'époque, hein, certains le rappellent. c'est un Lyonnais historique et l'histoire se finit quand même très mal.
Bah, un petit peu comme à chaque fois avec l'OL, avec quelques légendes, c'est souvent que ça se finit. Ah, ça se finit pas forcément bien à l'OL, sauf si éventuellement il y a un gros chèque et un gros transfert. Mais pour le reste, c'est souvent, on se souvient par exemple pour Chris, même pour Sonny Anderson à l'époque, même pour un Juninho, ça se finit un petit peu difficile. Alors c'est toujours difficile. Hein, de
Genesio aussi.
Oui, Genesio, mais c'est dans un autre style. Je parle de la part des dirigeants. Alors, c'est vrai que c'est toujours difficile, les histoires d'amour, notamment la fin, sauf quand ça se termine, donc je disais, par un gros chèque, style Lacazette, Fekir, Tolisso ou Benzema pour un petit peu plus long. Mais c'est vrai que ce qui est bizarre, et moi je trouve manque de respect quand même là-dessus, c'est que en sachant qu'au 30 juin 2020, il n'avait plus de contrat, à partir du mois de janvier, on ne lui en parle pas de cette prolongation de contrat, alors qu'on sait très bien que il peut signer presque n'importe où à partir du mois de janvier. Donc là, je pense qu'il y a quand même un manque de respect de ce côté-là, de ne pas lui avoir dit les yeux dans les yeux. Alors en janvier, février, pourquoi pas, mais après, pendant la période de Covid, on pouvait aussi lui parler. Et puis finalement, début mai, moi, quand j'ai souvent eu en contact, il me dit non, j'ai toujours pas de nouvelles. Et le 8 juin, quand je reviendrai, je reviendrai avec une fin de contrat au 30 juin. Et puis au final, on ne lui a même pas parlé des yeux dans les yeux parce que tout s'est fini par une visioconférence entre Juninho et lui. Voilà, donc il avait l'air un peu... Il est toujours chafouin. Le jour où il a signé à Dijon, je lui ai envoyé un petit texto en disant « Est-ce que tu veux une réaction ?» Il dit « Non, en gros, je suis trop en colère, je ne vais pas le faire tout de suite. » 7 semaines plus tard, quand on l'a retrouvé du côté de Dijon, la colère n'était pas retombée. Alors, il parle d'incompréhension, mais à chaque fois, pour lui, c'est clairement... on lui a manqué de respect sur le coup. Et je pense qu'il y a un petit peu de ça quand même.
Est-ce que, Manu, tu comprends la vexation de Greg Coupé, ou alors est-ce qu'il est un peu trop old school et puis maintenant, les choses évoluent. Et puis dans le monde de l'entreprise, parfois, ça ne se fait plus comme ça se faisait il y a 10 ans.
C'est le monde dans lequel on vit. Hein. Le football ne déroge pas à ça, malheureusement. Donc, on n'est plus dans un monde de bisounours comme c'était un peu à l'ancienne. Je comprends ce que veut dire Greg dans le fait d'avoir autant donné au club et d'avoir été aussi inscrit dans l'histoire de ce club et de recevoir presque une fin de non-recevoir et même pas de relations humaines à la fin, et ça s'est délité comme ça. Donc pour moi, on sent bien qu'il y a eu des problèmes relationnels au sein même du staff, et notamment avec Rudy Garcia, et je pense aussi qu'il y a eu une dilation avec Juninho. Et encore, moi je suis un peu surpris de la position du président Las, qui a toujours été respectueux des joueurs, des anciens joueurs, et toujours été essayé d'être protecteur. Je le trouve assez silencieux depuis les prises de position médiatiques de Greg. Après, Greg, il faut qu'il comprenne que le monde dans lequel on vit, il est comme ça. Et le football n'a pas de reconnaissance envers les anciens joueurs. Tu peux prendre tous les plus grands clubs au monde. Il y a des anciens joueurs qui incarnent encore une certaine institution, mais la grande majorité... Je veux dire, il n'y a pas de sentiment à faire.
Les meilleurs là-dessus, si, enfin, à l'étranger, les Anglais sont bons quand même là-dessus. Tu vois, Manchester United, les anciens, ils ont leur siège réservé au stade, on les écoute, ils sont toujours reconnus à leur juste valeur.
Gilbert, tu m'excuseras,
certains
Manchester
ont des
United, certains joueurs
pas ta statue
sont même
Arsenal.
Plus les bienvenus. Ouais, t'as des joueurs à Manchester, ils sont même plus les bienvenus au sein du club, tellement ils sont critiques envers le club au niveau médiatique. Donc, si, dans tous les grands clubs, c'est comme ça. Je veux dire, je vais pas dire que Arsenal, en tant qu'ancien club, ou Chelsea, ou Barcelone, si je les appelle, ils vont pas m'offrir une place. C'est pas ce que je suis en train de te dire. C'est que si demain j'étais amené à bosser pour ces clubs-là et que pour X raisons, notre association devait se terminer, il ne prendrait pas de gants. Je crois que la reconnaissance, elle se situe qu'à un seul niveau dans un club pour un ancien joueur. C'est avec les supporters, c'est tout, quoi.
Alors, Olas, quand sachant même, Édouard, juste te pose une question là-dessus, pardon. Mais Olas, il est quand même... C'est vrai que Manu a raison. Tu as l'impression qu'il veut laisser Juninho et les autres s'en occuper. Et puis quand il apprend que Coupé ou Maurice s'en vont, Ah là, il comprend pas qu'ils partent, en fait. Mais là, pardon, Jean-Michel, mais à ce moment-là, mets-toi dans le dossier avant, quoi.
Non, oui, bah, c'est là qu'il y a un petit malaise. Il y a forcément, on n'arrive pas forcément à comprendre, en sachant que du côté du club, on va rétorquer qu'on lui a donné sa chance et on lui a payé sa formation hein, d'entraîneur de gardien de but. Ça coûte un peu quand même, mine de rien, s'il faut un club porteur. Donc, on lui a donné aussi sa chance en tant qu'entraîneur des gardiens. Mais lui se voyait un petit peu à l'ancienne. Lui se voyait entraîneur à vie des gardiens de but à l'OL, un petit peu comme Joël Batz avant et que les staffs passaient, mais qu'au niveau du gardien de but, c'était lui le boss. Donc, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il y a aussi le côté Juninho veut que tout le monde soit aligné sur 2021, 30 juin 2021, la fin des contrats. Et lui, éventuellement, un contrat d'un an, ça ne le gênait pas. Hein, donc, voilà. Après, il a quand même glissé dans la conférence de presse qu'il n'avait pas d'atome crochu avec Rudy Garcia. Donc, voilà, la boucle est bouclée. Mais ça aurait pu se faire plus proprement, autrement. Surtout que Greg, lui, voilà, autrement. Lui, il aime bien qu'on dise les choses et il l'aurait exactement bien pris. Voilà. Et on aurait pu lui dire les yeux dans les yeux, même dès janvier ou février. Voilà, l'année prochaine, on ne veut plus que ça soit toi, on veut faire avec quelqu'un d'autre.
Mais juste,
mais pas attendre le 21 mai dans cette période en plus de Covid.
Les supporters, ils disent quoi de tout ça? Ils s'en foutent un peu que les anciens quittent ou alors ils sont sensibles à ça? Enfin, moi, j'ai l'impression qu'ils sont assez partagés pour avoir fait des débats là-dessus dans l'after.
Oui, c'est assez partagé.
Ils sont fatalistes.
Oui, fatalistes. Et puis après, il y a ceux qui sont contre Rudy Garcia qui vont dire que c'est Rudy Garcia qui l'a poussé dehors. D'autres qui éventuellement disent voilà, bah, c'est le foot moderne. Qu'il y en aura un autre qui va faire progresser Cyprien Tatarusanu et puis tous les joueurs, tous les gardiens de but avec Anthony Lopez. Mais bon, quand Greg, pour la conférence de presse, quand on assiste à celle-ci, certes, il s'attendait à avoir des questions posées sur l'OL. Je m'attendais à ce qu'il fasse du politiquement correct. Je m'attendais à ce qu'il dise au bout de 3 questions, on arrête. Et en fait, on en a fait 10, 12 et même éventuellement quand les questions posaient sur Dijon, il revenait un petit peu à l'OL, notamment sur cette phrase où il dit « j'ai quitté une usine à gaz pour retrouver un club plus famille ». Voilà, donc ça dit aussi ses envies. Il voulait être dans un staff plus rapproché. Quelque part, tout le monde s'y retrouve. Bon, et il n'a absolument pas perdu de son sourire en faisant les 200 bornes entre 200 km entre Lyon et Dijon.
Le plus choquant dans tout ce qu'a dit Greg Coupé, c'est surtout qu'il y a un an, il explique qu'il a absolument pas eu son mot à dire sur l'arrivée de Tatarusanu et qu'il l'a découvert comme ça par hasard. Ça, en revanche, je trouve ça assez hallucinant.
Je suis pas d'accord, moi, non, encore une fois. Là.
Ah bon ?
Parce que je sais pas en quoi.
Donc, entraîneur des gardiens, tu bosses avec le gars, il est numéro 2. Donc, tu connais ton numéro 1, tu sais à peu près ce qu'il faut comme profil de numéro 2. Le mec a été gardien. La moindre des choses, quand même, c'est de le consulter.
Avant ça, Gilbert, c'était. Oui, mais ça, les clubs étaient gérés comme ça avant. Aujourd'hui, la majorité des clubs, les grands clubs, ne sont pas gérés de cette façon-là.
Ben, je le déplore.
Aujourd'hui, tu as un directeur sportif, tu as un entraîneur. Souvent, même l'entraîneur n'a même pas le droit de regard sur les transferts. C'est le mec qui tient le chéquier, qui prend les décisions. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et je pense que Greg, qui a vécu la transition à l'intérieur, a du mal à l'accepter. Et je comprends, hein, mais à l'image des supporters, quand tu poses la question, ils sont un peu indifférents, voire fatalistes, quand ils voient ce qui se passe avec le centre de formation, avec les joueurs qui se cassent maintenant sans accepter de signer leur premier contrat pro dans leur club formateur, quand ils voient des investisseurs étrangers qui viennent au sein même de l'actionnariat et qui dépossèdent peu à peu l'identité, on le voit avec Bordeaux, on le voit avec beaucoup de clubs. Comment je peux comprendre encore une fois ce que dit Greg, mais à un moment donné, il faut qu'il regarde la réalité telle qu'elle se présente aujourd'hui. On n'est plus dans le monde du foot d'il y a 20 ans, ça n'est plus la même chose.
Pour conclure notre podcast, changement total de débat, OL Valais. Edouard, fais-nous un petit point sur ce qui se trame autour du projet, quoi, du Groupama Stadium, qui peut-être s'appellera plus Groupama bientôt, mais peut-être si quand même. Enfin, il y a pas mal de flou, donc on a besoin de tes lumières.
Alors, en parlant de tram, la gare d'arrivée du côté du tram au Groupama Stadium va désormais s'appeler OL Dessine, OL Valais, parce que on veut changer justement, c'est plus une ville, c'est plus grand qu'une ville. Alors pour l'instant, il y a un stade, il y a un centre d'entraînement, il y a un hôtel, il y a des bureaux, et puis il y a un centre médical. À terme, en février 2021, il y a un centre de loisirs, il y aura 17 loisirs regroupés, du futsal, du bowling, du padel, d'une piscine à vagues. Il y aura des restaurants aussi, dont un qui sera aux commandes actionnariat avec un Jonathan Wisniewski, c'est un joueur du Loup, et un certain Pierrick Bourgeat.
Ah, tiens.
Un skieur que tu connais, voilà, qui fait partie des actionnaires de ce restaurant. Il y aura aussi l'Académie de tennis de Jovril Fitsonga. Ça sera d'ici 2 ans. 22 cours de tennis, une académie, un centre d'entraînement. Et puis, il y aura la fameuse salle multifonction, dit salle de l'Asvel, salle Tony Parker. Alors, on rentre dans les débats juridiques au niveau d'une enquête publique qui va débuter le 15 juillet prochain. Si tout va bien, en avril 2021, il y aura le permis de construire. Ensuite, entre 18 et 24 mois de construction. Au départ, c'est un projet de 115 millions d'euros. On a plutôt entendu désormais 140 millions d'euros d'ici 2023 pour la construction de cette salle. En format sport, pour le basket, ça sera 12 000 places. En format concert, ça sera 16 000 places. Et pour vous donner une idée, c'est un petit peu un projet en U, comme une salle qui est à côté de l'aréna d'Amsterdam. Donc pour avec trois côtés qui feront les tribunes, et puis le quatrième côté qui fera la scène. Et de ce côté là pour les soirs de match, on pourra mettre des tribunes, des gens, voilà pour tout l'avenir de cette OL Valley, donc qui à terme quand même fera travailler 1000 personnes par jour.
Manu,
mine de rien, ça fait quand même beaucoup d'argent investi et puis beaucoup de travaux.
Manu, c'est la vocation d'un club de foot de faire tout ça ?
C'est probablement une... Il faut toujours innover. Hein. Le football, comme je te dis, évolue énormément. On n'est plus dans la gestion pépère ou familiale qui pouvait exister il y a une trentaine d'années. Il y a une mutation qui s'est effectuée, qui est impressionnante dans beaucoup de domaines. Donc, moi, je suis en train de me poser la question, en fait, le rapprochement entre Tony Parker et Jean-Michel Aulas, est-ce que ça ne va pas, derrière, nous donner la naissance d'un club omnisport ?
Tiens, tu pourras conclure là-dessus, Edouard.
A priori, non. Dans un premier temps, c'est juste un rapprochement capitalistique entre l'OL et l'ASVEL. C'est pas forcément dans les tuyaux de faire un club omnisport. Les deux entités sont vraiment totalement distinctes. Parce qu'omnisport, il y a le hand qui a vraiment une structure à Lyon, le foot, le rugby aussi, le hockey sur glace, on en parlait à un moment donné, mais qui repart de zéro et qui est dans un autre... Non, c'est vraiment deux clubs qui sont cousins désormais, mais pas un club omnisport à terme. Les deux marques vont rester telles quelles.
Merci Edouard, merci Manu.
C'est dommage parce qu'on peut imaginer, beaucoup de synergies, c'est dommage.
Le podcast After Lyon reviendra au mois d'août, messieurs, pour bien sûr l'échéance Ligue des Champions. On vous souhaite donc à tous un bon mois de juillet. Salut Edouard, salut Manu.
Salut.
RMC
After Lyon.
Podcast
Gilbert Bribois.